tu vas continuer. Il n'y a pas de problème.
Non, mais oui, tu ne peux pas
non,
répondre à
non, 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 juste quelques éléments. Je voulais juste d'abord réagir à quelque chose que j'ai entendu sur, sur la honte, une réaction sur la présentation de la honte, qui évoque tout de suite le sentiment. J'ai vraiment voulu essayer en tout cas de montrer et de souligner que dans ces dimensions-là, il y avait des aspects qui ne relevaient pas uniquement du sentiment. Par exemple, dans la honte, le déshonneur, alors il y a la honte perçue, le sentiment de désintégration, de non-acceptation, de, voilà, d'isolement, mais il y a la réalité. Hein, quand je parlais de, voilà, d'un Kevin Spacey, dans le Me Too et Balance ton porc, qui se retrouve exclu maintenant de toute une série d'engagements, il y a une réalité objective à cette honte. Voilà. Et il me semble qu'il n'y aurait pas d'un côté uniquement l'intérieur, le sentiment, et seulement une chose qui serait objective, qui serait la transgression. À chaque fois, au niveau de la honte, de la culpabilité et de la peur, il me semble qu'il y a des éléments extérieurs, manifestes, et des éléments qui relèvent plus du vécu de cette réalité-là. Je pense que c'est important de toujours garder les deux. La culpabilité, il y a un aspect objectif, c'est la dette que crée le péché. Ce n'est pas simplement le sentiment qu'on en a, sentiment variable et parfois faussé aussi. Je pense que ça, il y a vraiment là quelque chose qui me paraît important de maintenir, l'aspect extérieur, enfin manifeste, relationnel, et l'aspect intérieur, le vécu. Oui, peut-être revenir sur la question qui revient de nouveau, sur ce qui relève de l'autorité, de l'hérédité, du contexte. Hein. Qu'est-ce qui finalement nous pousse à pécher ? J'aime bien, je crois que c'est Cornelius Plantinga qui hésite à parler de causalité du péché, parce qu'il y a quelque chose là d'assez insaisissable. Il y a un contexte de péché. Et précisément, il me semble, c'est en tout cas la direction que j'aurais envie de donner, qu'il ne nous appartient pas forcément d'évaluer des degrés exacts de responsabilité et de culpabilité. La culpabilité est là. Et elle a une part d'hostilité à Dieu. Et c'est cela qu'il convient de confesser. Et c'est contre la réalité auquel correspond cette manifestation qu'il convient de lutter. Mais cette obsession d'aller chercher, c'est notre contexte culturel aussi, hein, exactement pour quelle part, 30, 50, 70%, on est responsable, et coupable ou responsable et pas coupable, il me semble que c'est plutôt toxique pour la vie chrétienne qu'autre chose, parce qu'on finit par être obsédé par le péché, par le degré de culpabilité, que plutôt que par sa confession, sa reconnaissance, je suis... Il y a des facteurs extérieurs. Et en même temps, je suis macronien, là, je suis entièrement responsable. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Et c'est pour ça, tu as bien remarqué que j'ai évité la question du libre arbitre, qui me paraît souvent relativement opposer des choses de manière assez stérile. En disant, la liberté, c'est ce que je fais à titre personnel, en jeu, en première personne, où j'assume aussi mon héritage. Et la part là-dedans qui est strictement mienne, absolument mienne, ben finalement, peut-être qu'elle ne m'est pas tout à fait accessible. Et ce avec quoi je viens devant Dieu, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est moi, porteur d'un héritage, mais porteur en jeu. Et à ce titre-là, coupable, coupable oui, de la transgression et du péché. Peut-être deux choses encore. Une chose sur le mal subi. Je suis d'accord que... parler de péché... on peut parler de péché subi, puisqu'il y a bien une victime. C'est vraiment peut-être plus... Ça a été peut-être plus le point mort de la doctrine traditionnelle du péché, qui a provoqué, d'ailleurs, dans la théologie contemporaine, me semble-t-il, vraiment une réaction anti-péché. Mais justement, il me semble que une partie du mal subi, en tout cas dans ce qui concerne les relations humaines, nécessite d'accepter la réalité du mal commis. Alors, c'est différent dans le cadre de votre pratique, vous êtes médecin, hein, c'est ça ? Où, effectivement, là, c'est le mal en tant que conséquence du péché du monde, on pourrait dire, dans une lecture, à partir de Genèse 3, en disant « cette souffrance-là, c'est celle que porte un individu ou un autre, de façon variable, de façon qui ne représente aucune justice, qui n'a aucun lien avec le bien fait ou le mal fait, mais qui appartient à la condition. » Et là, qui fait l'objet, me semble-t-il, plus de l'accueil, de la solidarité, donc d'une éthique d'un être avec, que d'une question d'explication, puisque précisément, il n'y en a pas. C'est la condition pécheresse qui affecte de manière parfois très aléatoire. Et enfin, sur l'homme fondamentalement bon et fondamentalement mauvais. Alors, il y a une chose à laquelle je trouve qu'il faut être attentif, aussi pour que la doctrine chrétienne du péché ne soit pas mal comprise. Il me semble que certaines formulations du caractère pécheur de l'homme peuvent, je vais le dire vite, frôler la misanthropie ou favoriser la misanthropie. Le côté carpe de paillasson, je suis plus pécheur, bon à rien, t'es pécheur, t'es contre... Voilà. Tu ne vaux rien devant Dieu, de toute façon, tu n'as aucune valeur, tu crois. Bon, alors, il s'agit plutôt d'un thème homilétique, de prédication, où on veut essayer de confronter chacun avec son péché, mais ce n'est pas très équilibré. L'homme est aussi celui qui fait l'objet de toutes les attentions de Dieu. Cet homme que Dieu couvre à la sortie du jardin d'Éden, pour lequel il envoie son fils. C'est dire qu'il y donne du prix. Et donc, la question, il me semble... Oui, il y a des plans à différencier. C'est pas la part de mauvais et la part de bon. Je suis pas sûr que ce soit dans ces termes-là que ça se dise. Ou dans quelle perspective peut-on dire encore que l'homme est bon ? Et dans quelle perspective faut-il tenir en même temps que l'homme est fondamentalement mauvais. Mais il n'est pas fondamentalement mauvais dans son être créé. Il est mauvais dans son être abîmé par le péché et être habité par quelque chose qui va contre Dieu. Mais il me semble qu'il faut, en théologie en tout cas, il me semble qu'il n'y a pas d'affirmation comme ça qu'on donne en l'air. C'est sous une certaine perspective, sous un certain regard. Et qui nécessite du coup de pouvoir articuler des affirmations qui sinon peuvent être contradictoires. Mais il me semble que, je pense que la vie, l'existence réelle est suffisamment contradictoire pour que le théologien puisse s'y soumettre. Enfin voilà, c'est pas de la logique quoi. Hein. Ceux qui réduisent la théologie à des séries d'affirmations séparées par des connecteurs logiques, à mon avis, font autre chose que de la théologie. Quoi.
Merci. Voilà. Je retiens de ce matin qu'il y a une doctrine chrétienne extrêmement forte, mais en même temps qu'il faut apporter beaucoup de nuances pour ne pas tirer de mauvaises conclusions en quelque sorte.
Amen.
De cela. Je résume un petit peu comme ça pour le moment. Alors, il reste encore 2-3 minutes, donc c'est Johan qui va nous parler un petit peu des différents réseaux.